Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTM 33. Emmanuel avec vous dans Mille et une vies. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Holzer. Bonjour Eric.
Bonjour Emmanuel.
Alors Eric, pour vous présenter, vous êtes chasseur de tête, un métier un peu méconnu d'ailleurs, que l'on va creuser par la suite. Vous travaillez également dans le coaching et vous produisez des événements, on va dire, plutôt artistiques.
Tout à fait.
Alors au niveau de votre parcours, vous avez pratiqué le théâtre pendant de nombreuses années et vous êtes plutôt, attiré par les arts.
Oui, d'un point de vue, depuis très longtemps. Alors j'ai effectivement été, je suis arrivé au théâtre plutôt pour des raisons plutôt personnelles au démarrage, au départ. J'étais plutôt quelqu'un d'assez introverti et donc j'ai trouvé... En tout cas, j'ai essayé effectivement, je me suis essayé au théâtre, au cours de théâtre, et ça, pour on va dire, essayer de m'ouvrir un peu plus à cette époque où j'étais en fin d'adolescence.
D'accord. Plutôt introverti donc.
Voilà, plutôt introverti. J'ai prolongé un peu plus pour une douzaine d'années.
Mmh. Alors, c'est quelque chose qui a été facile justement quand on est timide et quand on se lance dans le théâtre, il faut faire le pas. Bon, déjà, on prend cette initiative, on fait la démarche. Ça a été un milieu qui a été rassurant, qui vous a apporté ce que vous cherchiez.
Tout à fait, en fait. Dès le départ, c'est un cadre en fait, c'est un cadre ludique, bienveillant. Et clairement, quand on commence à prendre des cours de théâtre dans un petit groupe, en général, les personnes viennent pour des motivations qui sont pas... qui sont souvent, en tout cas quand on prend des cours amateurs, je parle bien d'amateurs, les motivations sont souvent peut-être pas, en tout cas se rapprochent, en tout cas sont pas très éloignées les unes des autres, et donc on a souvent des gens qui nous ressemblent un petit peu. Donc on compte plutôt des gens qui sont dans la vie peut-être un peu plus timides ou réservés. Et ça prend assez vite et assez bien, et sans un cadre effectivement, comme c'est cadré en même temps avec une certaine liberté, on est un peu hors du quotidien dans cette petite bulle qu'on s'installe 3 heures par semaine, et c'est vrai que ça permet progressivement de travailler sa spontanéité.
Alors du coup, ces cours de théâtre vous apportent une certaine ouverture au monde, on va dire, à l'autre. Quel est le métier que vous rêvez de faire justement à l'adolescence? Vous avez envie d'aller vers dans quelle direction?
Non, au départ, c'est vrai que le théâtre était pour moi, en tout cas, une façon de m'ouvrir plus facilement, d'être un peu plus spontané, d'être un peu moins réservé, de penser un petit peu moins aussi, d'être un peu moins centré sur soi et sur ses pensées. Progressivement, effectivement, on arrive à s'ouvrir et on arrive à discuter, à dialoguer, à faire de nouvelles rencontres en dehors, effectivement, du théâtre et grâce au théâtre. Et progressivement, on se dit, tiens, pourquoi pas, l'idée commence à venir assez vite et se dire, oui, ça peut être un métier super intéressant. de faire ce métier et au quotidien, être dans ce petit écrin, on va dire, un peu protégé, en tout cas quand on prend les cours, hein, je parle effectivement pas de la représentation obligatoirement. J'ai vu progressivement apparaître, mais le cadre du cours en tout cas nous donne envie en tout cas d'aller plus loin, en tout cas on y pense.
D'aller de l'avant.
Alors, d'aller de l'avant, peut-être d'en faire un métier un jour, en tout cas d'y penser, en tout cas à ce moment-là, quand j'étais encore étudiant.
D'accord. Donc après, vous allez suivre une autre voie ou prendre une nouvelle direction. Vous allez plutôt vers... vous envisagez de travailler dans le commerce?
Alors oui, je continue le théâtre tout en ayant bien sûr mes études à côté. Donc, je n'ai pas... Voilà, c'est un petit peu difficile les études, mais en même temps, ça me permettait aussi d'avoir en tout cas cette capacité en tout cas à travailler et à me dire tiens, pourquoi pas ce métier que je commençais à matérialiser progressivement avant le commerce, mais que je commençais à me dire ça pouvait être intéressant. Et en parallèle, bien sûr, je fais des études, donc d'abord aller à l'université plutôt dans le droit et l'économie, et ensuite je m'oriente dans une école de commerce.
D'accord. Et par la suite, vous allez d'ailleurs travailler, vous allez être salarié dans cette école de commerce.
Alors, en fin d'école de commerce, j'ai fait un stage, effectivement. Et là, ça a commencé à faire la bifurcation, on va dire, entre je continuais le théâtre, je faisais quelques prestations, quelques figurations, quelques prestations télé et autres. Bon, bref, en tout cas, j'avais cet argent de poche que je pouvais générer à travers ce début de métier d'un côté. Et de l'autre côté, je commençais à me rendre compte que l'école de commerce m'apportait aussi une vision différente du monde, et j'ai commencé à faire mon stage, mes stages de fin d'études m'ont projeté sur autre chose et qui a commencé à m'intéresser également, donc c'est-à-dire le commerce.
Et du coup, en 2003, donc, vous montez votre cabinet où vous êtes chasseur de tête. Alors, chasseur de tête, pour ceux qui nous écoutent, on a tous entendu cette expression. On connaît quand même peu de gens qui ont ce métier. Donc, je trouvais intéressant que vous le développiez, que vous nous expliquiez un petit peu, même si on a une petite idée quand même de la question.
Alors, en fait, effectivement, quand j'ai été donc diplômé après mes stages de fin d'études, qui ont duré plusieurs mois, deux stages sur les deux dernières années, qui ont duré en tout une douzaine de mois à peu près, cumulés. Bien, je suis entré dans le domaine de l'informatique, en fait, hein, lors de ces stages, et j'ai commencé à m'y intéresser, en fait. Hein, en réalité, c'était un peu un terrain de jeu. Je sortais d'un peu dessus du cadre scolaire et je me dis, mais c'est un super terrain de jeu, c'est super intéressant. Et donc, à l'issue de cette école de commerce, à mon diplôme, j'ai commencé à être salarié avant de monter mon cabinet en 2003, et j'ai fait quelques années en tant que salarié. Et donc, dans ce domaine informatique, et j'étais amené donc à recruter dans mon métier des personnes qui étaient des ingénieurs pour les présenter à certains de mes clients, donc des clients comme Air France ou autres, etc., qui avaient besoin de ces ingénieurs en informatique sur des sujets bien spécifiques. Et donc, je devais effectivement soit recruter ces personnes pour les proposer à mes clients, soit, bien évidemment, la société dans laquelle j'étais avait également un certain nombre de salariés qui étaient déjà qui remplissaient ces rôles-là, mais s'il nous manquait des bras, entre guillemets, chez certains de nos clients, il fallait les chercher. Donc, j'étais entre le côté commerce, donc trouver des missions et chercher des missions pour les ingénieurs de la société dans laquelle je travaillais, et par ailleurs en recruter pour des missions pour lesquelles on n'avait pas l'ensemble des compétences à disposition.
Mmh. Alors là, où j'ai envie d'intervenir, c'est que finalement vous allez avoir un angle de vue, un prisme différent de la majorité des gens, à savoir que le client est roi, et vous allez penser, vous allez aussi le penser bien entendu, mais vous allez aussi penser que le candidat est quelqu'un aussi d'important, à qui il faut accorder une importance et le prendre vraiment en considération. Enfin, ça va être j'ai envie de dire, une vision un peu humaniste de considérer les personnes qui sont en lien.
Tout à fait. Alors, en fait, je pense que je ne suis pas le seul à être dans ce cas, bien évidemment, en tout cas dans ce métier humain, dans le RH. Mais c'est vrai que c'est d'abord venu de moi, en fait. J'étais chassé moi-même également, donc de la même manière que les autres personnes. Et donc, c'est vrai que là, c'est ce constat, en fait. C'est que moi-même, j'étais candidat, donc on m'appelait, chassé, c'est-à-dire on m'appelait, ou j'étais en poste, et donc on m'appelait pour me proposer des opportunités. Et donc, je répondais parfois, parfois non, et par curiosité, principalement, pour découvrir un peu ce qui pouvait m'être proposé. Et donc, je me rendais à ces rendez-vous. Et j'ai constaté, en tout cas, la majeure partie du temps, que il y avait des carences au niveau du suivi de ma candidature, par exemple. Parfois, on ne me répondait pas à l'issue des entretiens. Je devais rappeler, ou en tout cas, j'attendais sans réponse de savoir ce que ça donnait par rapport à ces cabinets donc, de recrutement qui m'appelaient pour un de leurs clients et qui, in fine, ne me rappelaient pas pour me donner un oui ou un non. Et parfois, il suffisait simplement de se dire que peut-être que le client avait abandonné la recherche, parfois tout simplement, mais je n'étais même pas informé. Donc, ils ne recrutaient même pas. C'est arrivé qu'ils arrêtaient cette recherche pour différentes raisons. Ou sinon, ils ont trouvé un autre candidat, le cabinet, et donc ne prenaient pas la peine de contacter les autres candidats qu'ils avaient rencontrés. Et surtout qu'ils s'étaient déplacés, puisqu'on n'est pas à post-Covid ou un peu avant le Covid, où il y avait pas mal de visio. Là, c'était vraiment on se déplaçait. Hein. On avait un call. Et d'abord, et ensuite, après ce call, ben on fixait un rendez-vous avec ce consultant, et éventuellement après ensuite avec le client, son client. Et donc voilà, je constatais ça assez régulièrement. Bien sûr, il y avait d'autres cabinets qui faisaient très bien leur travail et qui répondaient bien évidemment après l'entretien, etc. Bon, j'en ai pas fait des milliers des entretiens, mais c'est vrai que j'ai eu, avant de monter ma structure, deux, trois postes différents hein, dans lesquels je suis allé dans les métiers informatiques. Mmh. Clairement, oui, j'ai rencontré peut-être une quarantaine de... Voilà, peut-être un peu moins une trentaine d'offres d'emploi auxquelles j'ai pu postuler où on est venu me chercher, où j'ai postulé. Donc bref, où je suis en train dans des processus de recrutement.
Ok. Donc du coup, quelque part, c'est en voyant les carences ou en vous apercevant de ces carences-là au niveau du suivi, au niveau de l'attention qu'on porte aux candidats, etc., que vous décidez, vous, de vous lancer et de créer une boîte en essayant d'être peut-être plus attentif ou plus à l'écoute, avec toujours en maître mot la confiance, établir la confiance entre les,
Gens. Oui, en fait, plutôt accompagner les gens dans leur carrière, en fait, me dire qu'au fond, c'est pas un one shot, comme on dit, hein, c'est pas une seule fois qu'on va recruter quelqu'un, ou en tout cas, une personne, on peut la suivre. Moi, j'étais en début de carrière, je me suis dit, ça serait génial d'avoir un conseiller, comme au Pôle emploi ou autre, ou ailleurs, bref, avoir quelqu'un qui nous accompagne dans notre carrière, en tout cas, sur le temps. Donc, je me dis que le recrutement, c'est avant tout ça, c'est-à-dire que je suis jeune, certes, donc je vais peut-être attirer des jeunes au début, mais on va peut-être vieillir aussi ensemble dans nos carrières, et je pourrais les accompagner dans leur carrière. Et c'était aussi mon postulat de départ, et me dire que oui, tout le monde n'est pas... il y a des caractères différents, mais il y a des personnes qui fonctionnent bien dans ce cadre-là, qui ont ce besoin de confiance, de suivi, etc., et avec lesquelles c'était aussi intéressant d'imaginer en tout cas cela, surtout sur des métiers qui sont rares en fait, et compliqués à trouver, de trouver qu'il y avait du sens, que ça faisait sens. Et quand j'ai monté ce cabinet, au démarrage, j'ai d'abord commencé dans le métier que j'avais déjà commencé à faire, c'est-à-dire l'informatique, et pour adresser effectivement des sociétés qui avaient besoin de profils informatiques, mais en recrutement cette fois, et pas en prestation de service. Et c'était une prestation de service, certes, mais pas en termes de régie, comme on dit, ou de SN, c'est-à-dire des métiers sont aujourd'hui faits par des sociétés de service qui placent temporairement des collaborateurs. Moi, je me suis orienté vers le permanent, l'emploi permanent. Donc, d'où la chasse de tête pour des profils techniques et fonctionnels, comme on dit, fonction support ou de direction, dans ces milieux informatiques.
Alors aujourd'hui, quel recul vous avez justement par rapport à votre expérience, à votre façon de procéder et à la voie que vous avez choisi d'emprunter ? Une certaine satisfaction, ça fonctionne
Ça fonctionne. Une satisfaction, oui, parce que il y a plusieurs facteurs en fait. Mais en réalité, je suis ravi de pouvoir aussi apprendre, parce que c'est surtout ça aussi c'est un des éléments aussi qui a fait que je me suis orienté dans l'informatique. C'était d'abord, avant tout, des questions que je me posais sur l'environnement dans lequel on vit. Et me dire, voilà, comprendre déjà un petit peu comment ça fonctionne autour de soi, c'est déjà une première démarche qui m'avait intéressé pour travailler dans le milieu informatique. Voilà. Donc de savoir qu'est-ce qui se passe derrière les écrans ou les touches de nos ordinateurs, ou peu importe comment ça se passe aussi, même pour une fusée. Bref, j'ai pu travailler avec Airbus, et donc voir comment on embarque effectivement des systèmes dans les fusées. Tout ça en fait, l'automobile, bref, on est entouré de technologies, et c'était ça qui m'intéressait aussi, l'humain, et apprendre aussi et comprendre le monde dans lequel, en tout cas le mieux le comprendre, le monde dans lequel je vivais et je vis. Et bien sûr, je suis aujourd'hui satisfait parce que j'apprends beaucoup au quotidien. Je fais beaucoup de rencontres, et c'est ça aussi qui me plaît. Beaucoup des rencontres, des gens qui me font confiance, et réciproquement, bien entendu. On ne peut pas toujours gagner, toujours avoir effectivement des clients qui sont satisfaits, ça, c'est comme tout. Hein. Il y a des moments où ça marche bien, il y a des moments où c'est compliqué parce que il nous arrive aussi parfois de ne pas trouver les personnes qu'on le recherche. Parce que clairement, je me suis orienté vers la difficulté, mais c'est ce que j'aime, ne pas faire de quantitatif, de recrutement massif, mais de recruter des personnes qui sont rares sur le marché, qui ne sont jamais en réalité en recherche d'emploi, qui sont toujours en poste. Et bien sûr, et dans ce cadre, effectivement, il est difficile de faire du quanti, et c'est pas aujourd'hui, ça n'a jamais été mon objectif. Voilà, c'était plutôt travailler au long cours avec des personnes. Donc oui, des personnes reviennent, des personnes où je suis depuis plusieurs années, que ce soit des clients, que ce soit des candidats, et les clients sont aussi deviennent aussi des candidats.
Alors vous parliez de relations humaines, de suivre les gens. Comment on procède? On est chasseur de tête, on le dit. Et comment est-ce qu'on va chercher les perles rares? Comment on procède? On connaît toutes les entreprises autour de nous, ou en tout cas dans le numérique ou dans l'informatique. On a des liens, on a... Alors des indicateurs, ça fait un peu agent secret, mais on a des gens qui nous alertent, on a des connexions, j'imagine qu'on a un réseau de malades.
Alors on le construit d'abord, surtout, le réseau. C'est-à-dire qu'on démarre et... oui, il se construit naturellement. Comme on construit, on va dire, un cercle. Alors, si on n'est pas chasseur de tête, on peut imaginer qu'effectivement, on peut imaginer que ça devienne un cercle amical, si. De cette manière, c'est-à-dire que c'est le même procédé. C'est-à-dire que les amis d'amis nous amènent d'autres amis avec lesquels on va. Quand on est plus jeune, on sort, on fréquente les amis d'amis, etc. Mmh. Le réseau dans le monde, c'est toujours. C'est naturel, c'est le lien social qu'on développe, hein. En réalité, donc, on en fait un outil, effectivement, ça devient. Source de rémunération, un métier, mais au-delà du métier, c'est avant tout, il faut aimer faire ça. Et il faut aimer ces contacts, aimer les gens, en tout cas aimer faire des rencontres.
Communiquer,
voilà. Mm-hmm. Donc si c'est naturel, oui, on le fait, et donc bien sûr, les réseaux se développent comme ça. Alors en 2003, les réseaux sociaux étaient un peu moins développés. Ça a été quand même assez intéressant d'avoir ces réseaux sociaux, c'est même plus qu'intéressant. Puisque ça, je parle des réseaux sociaux professionnels, hein. Mais il y a aussi également des réseaux sociaux avec lesquels on a pu, je peux encore continuer à travailler, hein, bien évidemment, que ce soit des réseaux sociaux traditionnels comme Facebook, Instagram et autres. Mais clairement, oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables, comme les LinkedIn notamment, sont incontournables pour aujourd'hui faire du recrutement. Mais oui, les années passant, l'expérience fait que, effectivement, un réseau, ça se travaille, et ça se travaille non pas que sur la connexion, ça se travaille dans la relation. Mmh. Donc, plus le temps passe, plus on est pertinent et plus on a des réseaux qui ont
une certaine étoffe.
À du corps, quoi. Il y a vraiment du sens. Voilà. Mmh. Parce que les personnes, on les a régulièrement et la confiance qu'ils ont, au fur et à mesure, nous permet d'avoir aussi des contacts qui nous amènent de leur propre réseau. Mmh. Et on suit leur carrière, on les recrute une fois. Quelques années après, on peut recruter à nouveau cette personne parce qu'elle est partie ou parce qu'elle nous a fait part de son désir de partir. Voilà, c'est tout un suivi, c'est toute une.
Voilà, c'est un accompagnement quelque part aussi.
Oui, c'est ça. C'est clairement un accompagnement. C'est l'intérêt qu'on porte aussi à l'évolution aussi de leur métier, de ces personnes aussi, de leur trajectoire qu'elles souhaitent donner à leur carrière à un moment T. Et lorsqu'on les revoit quelques temps après, de voir si ça, voilà, de voir comment ça évolue, comment ça a pris, les conseiller le cas échéant. Et progressivement, oui. La chasse de tête aussi va vers d'autres métiers sur lesquels qui ont fait sens par la suite. C'est la formation également qu'on a développée sur la partie soft skills avec mon associé sur les soft skills. Donc, vraiment travailler sur les performances liées au savoir-être, en fait. Hein. On dit soft skills, clairement, c'est plutôt orienté sur cette dimension communicant, les performances des atouts que les personnes, effectivement, ont pour mener à bien leur carrière, en tout cas être performant, c'est les identifier pour les mettre en avant et les faire travailler là-dessus. Et également le coaching qui, lui, est plutôt orienté sur la gestion de carrière, sur des questions que l'on se pose pour un candidat à un moment ou un autre de sa carrière, pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour passer ou pour aller dans cette direction. Mm-hmm. Et voilà, et ça fait sens. Donc aujourd'hui, ces métiers sont regroupés dans, entre guillemets, dans ce que nous faisons, c'est-à-dire le recrutement, par la chasse de tête, la formation et le coaching.
Mmh. Alors aujourd'hui, votre entreprise s'appelle comment d'ailleurs ?
Alors elle n'a pas changé de nom, elle a toujours H&D Conseil depuis le début, ça n'a pas. Voilà, c'est mon nom, mon initial, je n'ai pas fait compliqué.
Des fois, les choses simples sont les meilleures.
Oui, voilà, on ne s'est pas creusé beaucoup la tête, ce n'était pas le sujet. Et aider, c'était mon associé au démarrage de l'activité, qui est Albert Delossy.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous travaillez à deux dans cette entreprise ?
Alors non, pas tout à fait. En fait, j'ai jusqu'en 2014, cette entreprise avait des salariés et moi-même en tant que salarié, et on était deux associés. Et après 2014, donc on était 5-6 en moyenne, hein, dans le cabinet. Et depuis 2014, j'ai changé en fait ce fusil d'épaule, j'ai recréé la société en 2018, j'ai fait des missions de transition entre 2014 et 2018, on va dire, plutôt du management de transition, c'est-à-dire j'ai vendu mon expertise, mon métier, comme pour aller dans des entreprises et accompagner des directions, des patrons de sociétés, pour les aider à recruter, donc, mais en interne. Et donc on achetait, entre guillemets, mon savoir-faire à la journée. Voilà, donc mon savoir-faire, et ça a duré quelques années. Et donc ça me prenait bien sûr beaucoup de temps, donc j'étais tout seul pendant cette période-là. Et en 2017-2018, officiellement en 2018, j'ai recréé ma société. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, ouais, clairement, aujourd'hui, avoir des salariés, c'était compliqué. Je ne souhaitais pas manager, je souhaitais avoir des gens qui étaient concernés. Et donc, j'ai trouvé très rapidement, effectivement, que les personnes qui étaient en freelance ou indépendants avaient ce, parmi eux, en tout cas, c'était plus facile d'avoir moins d'échecs, en tout cas. Parce que je ne dis pas que les salariés ne sont pas, entre guillemets, entrepreneurs ou intrapreneurs, mais en tout cas, le constat est le suivant, c'est qu'il y a moins d'écueils quand je choisis effectivement quelqu'un qui est plutôt en freelance et qui en a fait son métier et qui est rémunéré aussi à son résultat et aussi à sa pertinence, en tout cas dans ce métier dans lequel il joue, entre guillemets, on va dire plus à court terme, son poste que sur un CDI où c'était un petit peu, où c'est un petit peu différent.
Ouais. Donc, les motivations sont différentes.
Voilà, donc je cherche des gens qui sont motivés, qui veulent, qui veulent aller dans le temps en partenariat, mais qui n'ont pas la sécurité de l'emploi, entre guillemets. Et donc ça permet effectivement de sélectionner plus facilement et de trouver des personnes qui, plus rapidement en tout cas. En tout cas, pour moi, c'était ça. J'avais eu quelques écueils avec des salariés par le passé. Je laissais beaucoup d'indépendance et beaucoup d'autonomie. Et c'est vrai que le management, ça demande aussi beaucoup de... En tout cas, un certain suivi, ce que je ne faisais pas ou que je n'avais pas matériellement le temps évidemment de faire. Voilà, donc aujourd'hui, on est entre 5 et 7 personnes à travailler, principalement des freelances et chez un associé.
D'accord. Bon, donc...
Les freelances, parmi eux, il y a des anciens salariés.
Ah. Voilà. Oui, on n'a pas fait une razzia sur tous ces gens-là.
Oui, tout à fait. Ah, ouais. Il y en a qui sont quand même qui sont mis à leur compte et qui ont compris effectivement que c'est intéressant de travailler dans ce domaine aussi à leur compte et que le modèle était intéressant et qu'ils avaient effectivement toute pertinence à être indépendant et performant.
D'accord. Bon, alors moi, j'ai envie de dire que de chemin parcouru quand même depuis l'atelier théâtre.
Du chemin, c'est vrai.
De la communication, de l'investissement, de l'engagement aussi professionnel auprès des autres, toujours avec bienveillance. Alors, si vous avez évolué dans ce domaine-là, j'ai envie de dire que tout ce qui vous passionnait par rapport aux arts, à savoir le théâtre, la télévision, le cinéma, c'est resté très présent. C'est quelque chose qui vous anime toujours.
Depuis ça jamais, oui, c'est toujours été là. En fait, quand j'ai monté le cabinet en 2003, le théâtre était toujours dans ma tête et je me suis dit j'ai peut-être arrêté. Je n'ai pas fait un métier de comédien, de ces cours, mais j'ai quand même, j'ai toujours aimé effectivement. Je me suis dit, il faut que je prolonge cette expérience d'une manière ou d'une autre.
Alors, comment avez-vous procédé ? Ça nous intéresse.
Bien, j'ai créé, en même temps que mon cabinet HD Conseil, on a créé aussi simplement une société pour organiser des événements, en fait. Je me suis dit, tiens, produire des événements, ça serait génial, ça serait pouvoir engager les artistes, organiser, produire, être en scène, effectivement, des événements, était pour moi, on va dire, une prolongation possible, et en tout cas, prolonger un petit peu ce rêve, en tout cas, que j'avais commencé à travailler dans mon adolescence en tant qu'apprenti comédien, on va dire. Et au fond, certes, le métier comédien n'était plus le sujet du moment, et d'ailleurs n'était plus le sujet du tout pour moi, et pour différentes raisons d'ailleurs, mais je pense que j'étais pas non plus le comédien, on va dire, qui avait le sens, qui avait peut-être un peu trop de pudeur, peut-être, pour aller sur certains rôles ou certains abandons qu'on pourrait faire de son propre ego sur scène, etc. C'était un petit peu compliqué à la fin pour moi là-dessus. Donc la synthèse est arrivée quand même assez rapidement et de me dire, voilà, prolonger cette aventure plutôt dans l'ombre cette fois est quelque chose qui me parlait. Et donc j'ai créé HD Events. Voilà. Donc HD et le mot Events derrière, simplement. Events, j'aurais pu mettre soirée, ce que j'ai fait d'ailleurs, en français. Et donc l'idée était d'accompagner de faire de l'événementiel côté particulier et corporate, c'est-à-dire B2B pour les sociétés. Et vite la partie B2C, c'est-à-dire individuelle pour les particuliers, je l'ai très vite abandonné pour différentes raisons. Bref, à l'époque j'avais créé un site avec un développeur qui était un peu innovant puisqu'il créait, on va dire, des soirées, les gens pouvaient commander comme aujourd'hui. Comme ça existe depuis 2005 ou 2007, les packs de soirées. voyez, mais c'était sur Internet, à la carte ou clé en main, on va dire. On avait une soirée pour aller au théâtre avec le restaurant et l'hôtel et la voiture avec chauffeur ou le taxi.
Oui, un peu comme les box, c'est ça.
Alors, comme les box, ça n'existait pas.
Ouais. Ah, ça n'existait pas.
Non, ça n'existait pas, bon, sauf que d'autres sont arrivés et beaucoup plus intelligents puisqu'ils ont investi par des financiers, donc ont investi, puisque le cœur en fait, du sujet, c'est la com. Moi, j'ai investi sur un site et avec mes propres deniers de la société qui, voilà, mais il fallait beaucoup plus d'argent parce qu'il fallait communiquer de manière plus globale. C'est ce qui a été fait par des sociétés comme Weekendesk,
qui existent aujourd'hui.
Voilà, et qui ont fait qu'effectivement, ça a pris. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai toujours continué dans ce domaine, mais cette fois-ci plutôt toujours dans le domaine de la partie société. Et donc j'étais amené à avoir des demandes de soirées, de créer clé en main aussi des soirées pour des entreprises ou des associations. Et donc j'ai fait une cinquantaine d'événements depuis de 2003, 2017, 2018. Voilà, ce qui n'était pas énorme en termes de voilà, parce que j'avais quand même un cabinet. Mais c'était pour moi un laboratoire. J'utilisais la partie événementielle comme étant un exutoire, en tout cas un moment de...
De liberté, un espace de liberté pour vous, peut-être, et de partage de passion aussi, quelque part, puisque je crois que vous avez fait des soirées avec, en invitant des chefs cuisiniers, mais aussi des prix Goncourt, enfin, c'est des invités... assez différent, hein, c'est assez éclectique.
Oui, c'était en fait l'intérêt d'avoir monté cette structure, c'était avant tout d'y mettre autant que faire se peut une dimension artistique à chaque soirée. Donc je l'imposais pas, mais clairement on me rémunérait et on gagne éventuellement de l'argent quand on fait ça. Mais cet argent, comme on dit la marge, ben, je l'investissais encore plus dans la partie artistique. Voilà, c'est-à-dire que quitte à gagner beaucoup moins, quitte à gagner parfois presque zéro, c'était pas ça l'enjeu. Pour moi, l'enjeu, c'était que les soirées soient... voilà, que je puisse produire quelque chose qui me plaise aussi, qui plaise bien sûr à mon...
Oui, à c'était mon la recherche.
Qui me plaise parce qu'il y a une dimension artistique.
D'accord.
Voilà. Et cette dimension artistique, eh ben, quitte à investir dessus plus qu'il ne faut, ben, j'avais en tout cas cet argent qu'on me confiait pour pouvoir faire de belles choses. Voilà. Et donc, j'espère en tout cas que l'ensemble des personnes qui m'ont fait confiance...
Trouver
leur compte aussi pour elles-mêmes, et je pense que oui, sinon je n'aurais pas fait ça pendant une quinzaine d'années.
Oui, donc des moments de partage, des moments de découverte, enfin, vous faites aussi partager, on va dire, vos passions ou ce que vous aimez à un certain public. De partager, justement, c'est important le partage pour vous ?
Oui, en fait, c'est pas... Alors, il y a le partage, mais c'est partager, mais c'est surtout l'émotion qui m'intéresse. C'est-à-dire se sentir humain à un moment, c'est-à-dire se connecter à ses émotions. C'est surtout ça qui m'a toujours motivé. L'émotion, je la retrouve partout, en fait, dans mes métiers. C'est-à-dire, on est toujours dans l'humain. L'émotion, elle prend différentes formes. Mais il y a toujours quelque chose qui touche à l'émotion. Même dans le recrutement, même dans des phases de négociation, dans des phases parfois un peu tendu ou de parler de ces enjeux, que ce soit pour le client, parfois on peut aller plus loin que le simple cadre professionnel aseptisé ou en tout cas, les gens, on va dire, on a de l'intuitu personnel dans chaque relation, que ce soit dans le conseil, que ce soit bien évidemment et a fortiori dans le monde de l'événement et de la production, parce que les artistes, les personnes qui vont commander ces soirées, vouloir organiser une soirée en faisant appel à moi, vont être en contact avec ces artistes, vont être dans un monde un peu différent de leur quotidien en côtoyant ces artistes et en vivant cette soirée, moi aussi. Et donc oui, l'émotion, elle est à tous les moments, en tout cas dans certaines étapes de chaque métier que j'ai exercé, et a fortiori, comme j'aurais dit, sur l'événementiel, beaucoup plus. Oui, c'est ça qui m'a donné envie aussi de prolonger tout ça et de connecter les gens de cette manière-là, de partager et de marier, en fait, quelque part, en fait, de certaine manière, avec de l'humilité, hein, je le dis quand même, mais présenter, en fait, voilà. Être l'entremetteur aussi, être le pont, parfois, le passeur, peut-être.
Ah, le chef d'orchestre.
Alors, chef d'orchestre, peut-être pas. Oui, ça peut être de certaine manière, mais j'ai du mal avec ce mot parce que c'est vrai que c'est le chef.
Et c'est vrai, le chef. Le boss.
Le côté chef, ben,
oui, voilà. Ça peut rebuter, c'est ça.
Oui, parce qu'en réalité, il n'y a pas de. il n'y a pas de hiérarchie à travers effectivement tout ça. Je pense que c'est une alchimie qui se crée entre les gens, les relations, les groupes qui se créent, les soirées qui se font. Ce sont des personnes et ce sont voilà, que ce soit des artistes ou d'autres personnes. Tout l'intérêt, c'est de voilà, c'est quelque chose qui se passe, qui se crée. Alors bien sûr, l'artiste est au centre des soirées événementielles, mais lui-même est aussi une personne dans un autre cadre de son métier ou de son art. Et il y a aussi ça qui se rencontre. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, des deux, dans le monde événementiel, c'est-à-dire que dans la production. Mm-hmm. Un artiste est aussi une personne, une femme, un homme, et ce qu'il produit, entre guillemets, je le considère comme étant une partie de divin. Voilà, il est homme ou femme, mais aussi quelque part avec cette émotion dans la création, il y a quelque chose de divin en plus. Mais il n'est pas le divin, il est voilà, et chacun à son niveau également, je pense, à cette capacité à voilà, à transmettre, et ça passe par l'émotion aussi, et surtout la connexion entre les êtres. C'est aussi l'émotion qui nous connecte. Sans émotion, je pense qu'il y a très peu d'intérêt à soit travailler, à part pour se nourrir et pour remplir ses propres besoins, ses besoins primaires. En réalité, on a besoin d'autres aspirations, et je pense que l'art, en tout cas,
facilite tout ça.
Est un vrai vecteur, effectivement.
Bon, ben, je crois qu'on a, comment dire, des connexions communes aussi par rapport à cela. Au niveau du théâtre, vous disiez, il fallait vous ouvrir, avoir plus d'assurance, etc. Finalement, les émotions, vous y pensez, vous les côtoyez, comme tout le monde, mais vous êtes à la recherche des émotions dans le théâtre aussi, quelque part. Quand on fait du théâtre, on exprime ses émotions, on exprime des émotions que l'on doit montrer pour incarner un rôle. Alors, je ne dis pas que vous incarnez un rôle aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça, mais je veux dire, les émotions, c'est votre vecteur, c'est votre leitmotiv, finalement.
Oui, je pense qu'en fait, quand on change pas vraiment. Hein. J'étais plutôt quelqu'un de réservé plus jeune, et là, sur la forme, je suis beaucoup moins aujourd'hui, mais je pense que beaucoup de gens qui sont, on va dire, plus petits, plus réservés ou timides, comme on le souhaite le dire, avant tout, je crois que c'est aussi une peur de livrer ses émotions, en tout cas de les laisser vivre.
Une certaine fragilité qu'on n'a pas envie de montrer, peut-être.
On considère comme, dans un monde dans lequel, effectivement, la performance, la compétition parfois domine, effectivement, la faiblesse, en tout cas, potentiellement, cette image peut être interprétée comme une faiblesse, cette idée-là, l'émotion, oui, effectivement, c'est difficile aussi de se dire, voilà, je peux me lâcher là-dessus. Le théâtre est un exutoire, est un cadre qui nous permet, qui nous autorise l'émotion. L'événement nous autorise l'émotion. C'est pour ça que, en réalité, ce que j'ai trouvé un exutoire pour pouvoir les exprimer de manière plus légitime et convenue. Peut-être un peu moins dans le monde du recrutement, au fond, mais il y a ces moments-là aussi dans l'intimité de la relation avec le candidat, avec des choses qu'on peut nous confier, les conseils qu'on peut donner, dans le coaching, dans la formation également. Tout ça, effectivement, il y a l'émotion qui passe. Il y a des choses personnelles qu'on dit. On écoute, qu'on entend, qu'on échange, il faut aussi avoir cette confiance de l'autre. Et donc, si on n'est pas dans cette émotion au départ, et ben, c'est difficile aussi de laisser à l'autre cette capacité à se confier, ou en tout cas, il ressent, l'humain en tout cas ressent que la bienveillance en face. Et donc, cette légitimité en tout cas qu'on lui donne, en tout cas dans cette émotion qui peut être exprimée parfois. Cette émotion, ces sensations, c'est ces choses qui vivent parfois plus. Voilà. Sortir un peu du cadre aussi, c'est important, parce que le travail, c'est tellement.
Chronophage.
Les événements, voilà, les événements, le spectateur vient aussi d'un monde extérieur aussi. Il vient assister à un spectacle, un événement, et aussi, au-delà de ça, il a peut-être aussi un cadre dans son travail exigeant, etc. L'émotion n'est pas toujours au rendez-vous. J'ai la chance d'exercer un métier dans lequel. On doit effectivement toucher à des parties intimes quand même, hein. Parfois donner un salaire pour une simple, on peut même parler d'intimité quand quelqu'un donne son salaire. Tout le monde ne donne pas son salaire à tout le monde dans la vie de tous les jours, donc déjà ça, c'est quelque chose d'intime, juste ça déjà, de donner son salaire à quelqu'un, de dire combien je gagne, combien je voudrais, etc. Juste ce mot, ces choses là sont déjà des choses. Alors vous imaginez qu'on va beaucoup plus loin aussi parfois dans le recrutement, c'est à dire que je souhaiterais faire ceci parce que je n'arrive pas à faire cela aujourd'hui parce que ça m'embête. Vous voyez, on se confie, on donne des éléments de réponse et aussi des éléments de... C'est mon personnel, en fait. Que dans le recrutement, déjà. Mmh. Bien sûr, dans la formation ou le coaching, bien sûr, il y a des choses beaucoup plus... Voilà. Mais l'émotion est le vecteur, en fait, de la transformation, en réalité, pour moi. Si on ne passe pas par l'émotion, si l'émotion ne se crée pas entre les êtres, en tout cas dans leur cadre professionnel, dans le cadre événementiel, quand je dis, comment on progresse ? Progresser, c'est pas être meilleur après qu'avant. Mais progresser, c'est peut-être atteindre quelque part, au fond, et si le travail peut me permettre aussi à moi et à d'autres également d'atteindre en tout cas un certain recul ou une certaine forme de... Ouais, de paix, entre guillemets, et aussi de se dire qu'effectivement ce monde regorge de beauté également, parce que ça nous fait aussi toucher à beaucoup de beauté, mmh. l'air de rien.
Mmh. Aujourd'hui, vous pourriez dire, est-ce que vous avez encore des rêves ? Quel rêve avez-vous aujourd'hui ?
Sincèrement, j'ai pas de rêve en réalité, c'est ça en fait. Je rêve souvent, parfois, dans ce que je fais, c'est presque un rêve en fait. Du moins, c'est pas un rêve, c'est une réalité qui est très belle à vivre. Mmh.
Et des projets alors professionnels, est-ce que vous aimeriez développer autre chose ? Vous avez un axe où vous percevez comment dans quelques années ?
Ouais. Je crois en rencontres, je crois effectivement à ces rencontres. Et oui, il y a des choses qui en ressortent. Mmh. Et les pensées à ce qui pourrait être fait, je préfère effectivement laisser entre guillemets, le destin des rencontres, des gens... Oui. En tout cas, je ne conçois pas le travail, en tout cas, concevoir des choses, je ne conçois pas seul, je le conçois avec d'autres. Mm-hmm. Donc, effectivement, je n'ai pas l'envie de créer seul ou d'avoir des axes de faire des choses seul ou d'entreprendre quelque chose. J'aime effectivement ce partage, j'aime ce côté, voilà, ce côté grégaire, c'est aussi mm-hmm. partager l'émotion, c'est aussi mm-hmm. partager des projets oui. Pour aller dans une direction. Et c'est une émotion déjà. Une belle émotion de pouvoir vivre ce type d'aventure.
Mmh. Bon, bah écoutez, c'est comment dire une vision, une autre vision peut-être pour certains d'un chef d'entreprise d'un entrepreneur. Bon, enfin bref, de quelqu'un qui est à la tête d'une société et qui s'investit et qui considère vraiment les autres comme des personnes à part entière avec des émotions et qui finalement vous épanouissez dans le partage, dans les connexions. On pourrait dire ça.
Oui, je pense qu'on est... On est, voilà,
on y est.
Je suis comme un... comme un Pulse. On est dans un Pulse. Mm-hmm. Je suis une des pièces du Pulse, mais seul, on ne voit pas ce que ça représente. Il faut chacun une pièce de Pulse, mm-hmm. en réalité, pour avoir une vision. Voilà. Ouais. Et si, effectivement... de Pulse avec toutes les connexions que j'ai autour de moi, ben voilà, j'arrive à y voir quelque chose, ben tant mieux, c'est ça que je recherche. Mm-hmm. Mais voilà, mais moi tout seul, ça ne m'intéresse pas trop en fait, en réalité, je n'y vois pas trop d'intérêt. Ben voilà. C'est intéressant de vivre ce côté grégaire, ce côté communautaire, c'est ça, c'est mm-hmm. avant tout ça. Oui. En tout cas, je pense qu'on est des êtres sociaux, on est dans le sociable, on est des êtres sociaux, donc on a besoin de ces... Mm-hmm. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'est nécessaire pour exister et pour vivre mm-hmm. Jusqu'au bout. Et voilà, je pense que vivre seul, c'est pas mon sujet. Donc,
c'est hors sujet, ça. Voilà. Voilà. Et comme on dit, seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin.
Voilà, et encore plus, si on est...
Si on est on peut aller très une loin, multitude.
Voilà. Voilà, y a des grands leaders qui sont capables aussi de réunir beaucoup de monde, et ça, dans le passé, on l'a vu, et ça, c'est beau. Et ça, effectivement, voilà, c'est important, ces leaders qui ont cette bienveillance et qui ont cette capacité à réunir énormément de gens autour d'idées... on parle d'écologie, on parle beaucoup de choses, donc ça serait magnifique d'avoir des personnes avec, on va dire, quelque chose de l'écho, en tout cas voilà, ce charisme et cette capacité à fédérer des personnes peuvent effectivement, un nombre de personnes importantes peuvent nous aider aussi à passer ce cap, ça serait extraordinaire. Mmh.
Bon, bah écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, Eric. J'espère que vous, qui nous avez écoutés lors de cette émission, vous avez aussi pris du plaisir et que vous avez découvert une profession, un homme avec des émotions, des sentiments et une façon de s'engager dans la vie au niveau professionnel qui est peut-être un peu différente de la vision qu'on avait. Voilà, je vous remercie, Eric.
Merci beaucoup Emmanuel, en tout cas pour ce temps et pour ce moment en tout cas d'échange.
Et de partage.
Avec lequel j'ai passé beaucoup de plaisir.
Bon, mais écoutez, moi aussi. Je vous souhaite un très bon week-end, Eric. Et puis, écoutez, à vous qui nous écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine émission. Merci.
Merci à vous.